Mes très chers auditeurs, je vous retrouve toujours en direct du salon Médecine Douce Bien-être et Thalasso sur le stand E29 pour la dernière émission de ces 5 jours. Voilà, on a fait beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'interviews. Différentes personnes finalement nous ont éclairés sur de nombreux sujets. Alors pour clôturer en beauté cette dernière émission, je vais être accompagnée d'un animateur qui a été à mes côtés pendant ces 5 jours. C'est Emmanuel Carrière. Ça va Emmanuel ?
Bonsoir Nathalie, oui j'étais fidèle, ouais, je te remercie.
Ouais, fidèle au poste, merci de ta présence.
Voilà. Ça change des enregistrements, on a fait un direct avec Guy pour l'astrologie. On en refera ?
On en refera un, évidemment.
Ouais, on fera des thèmes, on va essayer de préciser puis de donner des choses ou d'avancer à peu près dans ces domaines et ces associations de disciplines.
Ça va pas trop fatigué ?
Ça commence. Après, il va y avoir la course au chariot dans environ 30 à 45 minutes. Voilà, ce qui est fidèle.
Je vois que tout le monde. Et d'ici une heure et demie, le métro est bondé. Ouais, donc voilà, tout ça c'est aussi à prendre en compte. Alors chers auditeurs, on a aussi la chance d'être en la présence d'un praticien du Ayurveda. On n'a pas eu l'occasion de parler d'Ayurveda pendant 5 jours. Et moi je suis extrêmement proche des médecines traditionnelles, la médecine chinoise et l'Ayurveda. Je trouve que c'est simplement exceptionnel comme approche. Alors Alexandre, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Au micro de Radio Messou. Je me répète, je dois être fatiguée, je dois bégayer.
Pas de soucis, pas de soucis.
Alors Alexandre, tu t'es formé dans l'école Yoksansara.
Tout à fait.
Et tu as été finalement le stand d'en face tout au long de ces 5 jours. Comment ça s'est passé pour toi ?
Alors le salon s'est très très bien passé, donc beaucoup de personnes. On a vendu pas mal, parce que alors, nous on a une gamme de produits ayurvédiques très, très, très spécialisée, avec vraiment un travail très très, très subtil au niveau énergétique. Donc pour les produits tout s'est bien passé, au niveau des formations, quelques formations ont été vendues parce qu'on a une offre assez intéressante à moins 30%.
Sur le salon,
donc par exemple une formation qui est l'initiation à Bianga qui habituellement coûte 390€, moins les 30% on tombe à 276 à peu près, donc là les gens sont vraiment vraiment intéressés par ça.
Qu'est-ce que c'est l'initiation à Bianga ?
Alors l'initiation à Bianga, en gros on pose les bases de la philosophie ayurvédique, parce que le massage est une chose, la philosophie en est une autre, mais on ne peut pas dissocier les deux. Le massage sans la philosophie, c'est ok, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est très bien, on peut masser, mais il n'y aura pas cette subtilité parce qu'il n'y aura pas la compréhension de ce que l'on va toucher. Alors c'est très simple, la philosophie ayurvédique se base sur les 5 éléments. On a tous en nous les 5 éléments. Alors les 5 éléments sont l'élément éther, donc le cosmos, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces éléments combinés entre eux vont donner les doshas. Donc l'éther et l'air, ça va donner vata dosha. Le feu et l'eau vont donner pitta dosha. Et l'eau et la terre vont donner kapha dosha. À partir de là, chaque personne qui a ces 5 éléments en elle va avoir 2 doshas prédominants, un dosha vraiment prédominant, le deuxième qui suit et le troisième qui est assez bas. Alors, il existe des personnes tridoshiques, mais c'est très très rare.
Tridoshique,
c'est-à-dire un équilibre entre vata, pitta, kapha. On va dire 33, 33, 33, au niveau du pourcentage.
Donc c'est des personnes qui doivent quoi, avoir une alimentation en fait très variée
C'est des personnes qui peuvent manger beaucoup de choses.
D'accord.
Alors, après, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'Ayurveda, au niveau de l'alimentation, l'Ayurveda n'est pas végétarienne. Donc nous sommes végétariens, mais dans l'Ayurveda, s'il y a beaucoup de déséquilibre, alors notamment la viande qui peut être mangée, ça peut être le poulet. On exempte tout ce qui est viande rouge, parce que la viande rouge pour nous c'est de la toxine, uniquement de la toxine et des antibiotiques. Donc voilà, ça on enlève. Le poulet, ça peut être bon, mais la meilleure chose au niveau animal que l'on va manger, ça va être le poisson. Parce que beaucoup de personnes, surtout dans nos sociétés, sont en manque de phosphore. Et donc dans le poisson, il y a beaucoup de phosphore. Et après, à côté de ça, hors l'alimentation, il y a tous les produits, donc les compléments alimentaires à base de plantes qui vont cibler en fonction du déséquilibre de la personne. On va dire par exemple, on prend une personne qui est pitta. Donc pitta, je rappelle, c'est le feu. Donc c'est un problème qui est lié à l'acidité de l'estomac. Donc il va vraiment se libérer dans tout le corps, et donc il peut amener des problèmes au niveau de l'estomac, des remontées acides. Donc là par exemple on a une plante qui s'appelle le bilva. Le bilva, c'est une plante qui va traiter l'acidité de l'estomac, donc à prendre après manger. Donc ça va traiter l'acidité de l'estomac pour ensuite passer à travers le foie, la vésicule biliaire, l'intestin grêle, le gros côlon. Et donc tout ça.
C'est incroyable cette plante. Je crois que c'est ce qu'il me faut.
Toutes les plantes sont incroyables. Toi, tu es Vata Pitta. Donc toi, c'est. Je pense que tu dois avoir beaucoup d'angoisse. beaucoup de questions dans le mental qui pourraient justement t'envahir et te causer d'angoisse. Tu pourrais avoir aussi des problèmes articulaires, pas forcément, mais tu peux en avoir. Des problèmes, donc toi c'est l'élément air principalement, donc tu as beaucoup d'air en toi, donc tu vas avoir des problèmes de sécheresse de la peau.
Alors je pense que je suis plutôt pitta moi. Alors peut-être que
du haut que je vois,
mon praticien d'Ayurveda en tout cas me voit plus comme une pitta. Bon, mais peut-être
pitta,
que mais c'est ça, comme c'est toujours à cheval sur les deux.
Après voilà, moi par exemple mon côté c'est, je suis pitta vata vata pitta, c'est-à-dire que ouais, c'est un peu compliqué, mais mon maître, en gros, il me dit en fonction du temps qu'il va faire, je peux être soit vata, soit pitta.
D'accord.
Par exemple, s'il fait trop chaud, je vais être pitta parce que ça va m'énerver. S'il fait trop froid, ça va calmer mon pitta, donc je vais passer vata.
Mm-hmm.
Voilà, donc après, c'est... Mais là, de ce que moi, je vois en haut, parce qu'après, effectivement, il faut prendre tout le corps, c'est les yeux sont vata, parce que les yeux sont en forme d'amande, les cheveux sont vata, c'est pas des cheveux pitta. Après, au niveau de la peau... Là, de ce que je peux voir, c'est effectivement, j'ai pas encore touché. T'as les mains froides ou les pieds froids ?
Ouais.
Voilà, ça c'est Vata. Okay. Voilà. Et donc après, effectivement, à partir de là, on va avoir des huiles. Donc l'huile Vata, qui va être une huile qui va réchauffer le corps, parce que Vata a besoin d'être réchauffé. Pitta, c'est une huile rafraîchissante qui va atténuer et baisser la colère que Pitta peut avoir à cause de la chaleur. Et par exemple, Kapha, qui eux sont plus dans l'accumulation d'eau, ça va être une huile qui va être drainante.
Donc en tout cas, c'est une approche qui, en fonction de son dosha, qui peut cibler la santé et les problématiques à venir, en fait.
Tout à fait.
Dans une logique préventive, ça permet de se dire, je ne vais pas manger de la nourriture pimentée sous 30 degrés si je suis un pitta.
Exactement. Et après, effectivement, chaque personne a une alimentation qui lui est propre. C'est-à-dire, par exemple, les vata, il y a beaucoup d'aliments qu'ils ne peuvent pas manger. Prendre l'exemple de l'aubergine. L'aubergine, c'est un aliment qui assèche.
Ah
et
bon.
Donc c'est très mauvais pour Vata. Parce que Vata déjà qui est sec, si on assèche Vata en mangeant de l'aubergine, ça peut causer des problèmes au niveau de l'intestin ou au niveau de la peau. Donc là c'est un exemple. Sinon par exemple Pitta lui peut manger des choses sucrées. Parce que le sucré va calmer le feu et va atténuer la colère. Et Kapha c'est tout ce qui est drainant. Donc Kapha c'est boire beaucoup d'eau. Il y a une plante aussi qui est très bonne, c'est le Tulsi. Alors le Tulsi c'est le basilic sacré, donc ça va permettre d'atténuer le mucus contenu principalement au niveau des bronches. Le problème de Kapha c'est le problème de l'eau, et donc quand il y a trop d'eau, généralement il y a beaucoup trop de mucus à ce niveau là, et donc la plante, le Tulsi, va dégager les voies respiratoires.
D'accord. Emmanuel, toi ça te parle, tu connais quelques notions d'Ayurveda ?
Pas du tout, je suis honnête, j'apprends, je bois toutes ces paroles, toutes ces connaissances qui sont... Ça me fait penser beaucoup à l'homéopathie, à cette médecine de terrain, où on observe la personne sur tous ses angles, dans son ensemble, son comportement, son agissement, son mode de vie, son hygiène de vie, et c'est génial, c'est complémentaire, toutes ces techniques et ces méthodes. Et comment se passe une séance ? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu chez vous, ça se passe comment ?
Alors après, ça dépend.
Il y a une problématique et les gens arrivent
Séance massage, ou parce qu'en fait, on a plusieurs séances. On va avoir les massages,
oui.
On va avoir les bilans ayurvédiques et on va avoir l'astrologie védique.
D'accord.
Donc ce sont trois choses différentes. Alors, le massage, quand une personne arrive, la première chose que l'on fait, c'est qu'on discute avec la personne pour savoir pourquoi elle est là, ce qu'elle attend de nous, si elle a des problèmes dans sa vie. En sachant qu'après, en la voyant, on va se diriger vers les problèmes qu'elle peut avoir, type problème Vata, Pitta, etc. Donc, on peut plus ou moins savoir le genre de problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc, à partir de là, on peut faire un massage. Mais dans le massage, on ne va pas forcément respecter un protocole. C'est-à-dire qu'il y a le protocole de base, mais après, dans le protocole, on peut rajouter d'autres petites touches. Par exemple, dans l'Abhyanga, qui est le massage de rééquilibrage énergétique au long des chakras, si une personne, à un endroit, on sent qu'il y a une tension, on va pouvoir utiliser de la marmathérapie, qui est l'acupression ayurvédique. C'est un peu comme l'acupuncture chinoise, sauf qu'en ayurvéda, on ne va pas percer la peau, parce que pour nous, le fait de percer la peau, ça va casser l'énergie. Donc on va travailler vraiment en appuyant avec les doigts et en sachant qu'on va travailler avec les éléments dans les doigts. Parce que les éléments qu'on a dans le corps sont dans les doigts. Donc si par exemple une personne a trop d'air en elle, on va travailler avec le feu ou avec l'eau.
Qui se trouve où dans les doigts ?
Alors là, voilà, le pouce,
ouais.
Donc on est sur éther. L'index, on est sur l'air. Le majeur, c'est le feu. L'annulaire, c'est l'eau. Et l'auriculaire, la terre. Donc en fonction de la personne et en fonction de la zone, parce qu'après, on divise le corps en zones. La zone du haut, c'est la zone kapha, la zone du milieu, c'est la zone pitta, et la zone du bas, c'est la zone vata. Et donc à partir de là, on va adapter en fonction des zones à traiter certains types de manualités avec une digitopression reliée avec son élément.
C'est passionnant, en fait. Dire que même ces notions d'acupression, d'acupuncture qu'on retrouvait dans la tradition chinoise, oui. On la trouve aussi dans la tradition indienne. Est-ce qu'il y a finalement beaucoup de racines communes entre ces deux médecines ?
Alors, je dirais oui, il y aura des racines communes. Après, moi, je pense que ces médecines-là, c'est une... C'est une adaptation de son environnement à un instant T. C'est-à-dire qu'avec les éléments qu'on a, à l'époque où ils ont commencé à créer ces types de médecines, ils ont commencé à réfléchir par rapport aux connaissances, aux plantes ou ce qui pouvait les entourer, et ils ont commencé à faire leur médecine. Donc effectivement, dans tous les cas, la base, des deux médecines, en tout cas pour l'ayurvédique, c'est vraiment la nature. C'est vraiment la base avec la nature et la relation avec l'homme et la nature et les éléments.
Mais donc c'est aussi la compréhension de sa propre nature, sachant qu'on a tous des natures différentes finalement.
Tout à fait, qu'on appelle la prakriti. Ça, c'est la nature vraiment de base à notre naissance. Alors généralement, cette nature, elle est donnée par les parents. Donc imaginons si on a une mère qui est Vata Pitta et un père qui est Pitta Kapha, on a des chances d'être soit Vata Pitta, soit Pitta Kapha, parce qu'on récupère ça.
Il y a une forme d'hérédité.
Exactement. Mais après, ça, c'est à la naissance. Ensuite, on évolue dans sa vie. Quand on évolue dans sa vie, avec les changements qu'on peut avoir, avec la tristesse qu'on peut avoir, avec le bonheur qu'on peut avoir, voilà, tout ça va nous faire évoluer et donc on peut changer complètement de dosha et donc de constitution.
C'est top ça.
Donc ça, c'est top, oui et non. Après, ça dépend de quelle manière on change.
Oui. Oui, si c'est vers, entre guillemets, si on a une vie extrêmement triste et que ça nous modifie, bien sûr, mais ça veut dire aussi qu'on est des êtres changeants.
Tout à fait, à un moment dans notre vie,
on peut être, entre guillemets, tout feu, tout flamme, en évoluant avec plus de maturité, voilà, être plus posé dans la vie.
Et puis après, effectivement, voilà, redevenir quelqu'un de beaucoup plus serein.
Toi, Alexandre, comment est-ce que tu as découvert l'Ayurveda et qu'est-ce qui t'a poussé à te former ?
Alors moi, c'est un peu compliqué. Moi, je suis parti en 2010, presque un an au Pérou. Alors que je ne connaissais absolument pas le massage, absolument pas rien de l'Inde, rien du tout. J'ai travaillé presque 9 mois avec deux chamans. Donc un chaman dans la vallée sacrée à Pisac et un chaman en Amazonie à Iquitos. Donc j'ai fait des dizaines et des dizaines de cérémonies avec l'ayahuasca, le San Pedro, le tabac et plein de plantes maîtresses. Et en fait, c'est à travers mes cérémonies que j'ai eu des visions. Donc avec l'ayahuasca, pour faire court, c'est une plante en gros où on rentre dans une introspection. C'est comme, pour faire court, c'est comme une psychanalyse de 15 ans en 5 heures. Donc c'est très difficile parce que avant de prendre l'ayahuasca, on doit mettre une intention dedans. Moi, par exemple, ma première intention, c'était de savoir quelle était ma place sur Terre. Une fois qu'on boit l'ayahuasca, on garde cette intention en tête et le travail va se faire dessus. Pendant la cérémonie, il y a des icaros, donc ce sont des chants cérémonieux qui sont chantés pour pouvoir justement lâcher prise et récupérer cette connexion avec l'être humain, la Terre et le cosmos. En fait, ça, clairement, ça nous ouvre le troisième œil et ça nous permet d'avoir des visions, mais des visions bien précises. Et moi, dans mes visions, je voyais beaucoup de dieux et de déesses indiennes, et notamment, j'ai vu Shiva à un moment. Donc il était dans le cosmos. Moi, j'étais pareil dans le cosmos aussi. Je voyais ces différents corps astraux et... qu'il a un petit tambourin dans les mains, et à chaque fois qu'il secouait le tambourin, ça me faisait vibrer, non pas mon corps, mais intérieurement. Et plus il vibrait, plus il tapait, plus ça me faisait vibrer, plus il avançait vers moi et plus il souriait. Donc au départ, ok, je vois ça, pas de problème. Donc je continue à faire mes cérémonies, toujours avec cette arrière-vision indienne, que je ne comprenais pas parce que je n'avais aucun lien avec ça. Et en revenant en France, donc je me demande, vraiment, je commence à digérer un petit peu tout ce que j'ai vu et je me demande, voilà, qu'est-ce que j'ai pouvoir faire, en sachant que je savais très bien que je n'étais pas fait pour travailler dans un bureau. Voilà, c'était pas du tout mon ressenti.
Objectif, ouais.
Et donc j'étais un peu perdu et là j'ai un ami qui me parle d'Ayurveda. Je dis ok, d'accord, donc je prends le bouquin, je commence à regarder, je vois qu'il y a le massage, l'alimentation, et je me dis ouais, ça pourrait être intéressant. Donc je commence à chercher sur internet, je trouve différentes écoles, et celle qui m'a plu tout de suite par les couleurs, par la manière de faire, la manière de présenter, c'est Yog Sangsara. Et le jour où j'ai commencé à faire ma première formation, qui est l'initiation à Abhyanga, dès le premier jour, j'ai su que j'étais fait pour ça. Et donc là, maintenant, on propose à peu près 28 formations. J'ai dû en faire quasiment 20. Et moi, maintenant, je ne reste pas en France. Je vais partir habiter en Amazonie péruvienne, à Iquitos, pour ouvrir un centre ayurvédique et travailler donc conjointement avec les chamans et avec les plantes.
Waouh! Bah dis donc, je m'attendais pas à ça. Quel parcours, quel non, c'est incroyable.
Voilà, oui, c'est vrai que c'est pas un parcours qui est très répandu.
Alors là, mais en tout cas, si ta réponse lorsque tu as fait cette expérience avec l'ayahuasca, c'était le sens de ta vie, c'est d'aller ouvrir un centre ayurvédique. Enfin, peut-être que tout ça, c'est venu au fur et à mesure.
C'est venu au fur et à mesure parce qu'effectivement, j'ai un lien avec avec l'Amazonie, avec l'énergie que cette terre dégage, qui est très puissante. Et effectivement, j'ai passé plusieurs mois en Amazonie. J'ai jamais été aussi bien de ma vie. Voilà, j'étais avec, il y avait beaucoup de singes, beaucoup d'animaux. Voilà, tu les nourrissais, tu jouais avec eux. Il y a beaucoup d'échanges. C'est à vivre. Si je dois dire aux gens, s'ils doivent aller dans un endroit dans le monde, qu'ils aillent en Amazonie péruvienne, parce qu'il y a la péruvienne et il y a aussi au Brésil. L'Amazonie péruvienne est très énergétique et les gens sont très intéressants. Et voilà, si vraiment ils doivent aller quelque part en Amazonie, qu'ils aillent vraiment dans ces villes-là. Et voilà, c'est juste extraordinaire.
Bon, puis toi, ça doit être finalement ta terre d'origine. Peut-être que tu as déjà vécu d'anciennes vies là-bas. Il doit y avoir un passé karmique avec tout
sûrement,
ça.
Sûrement.
Mais ce qui est encore plus dingue, c'est d'avoir cette affinité avec l'Inde. Parce que moi, j'attendais à ce que tu me dises, je vais m'installer à Mumbai et je vais ouvrir un centre. Mais non.
Parce que beaucoup de personnes s'attendent
à
ce
entendre.
Que je dise. Mais je ne suis jamais allé en Inde.
Okay.
Mais voilà, j'ai cette connexion avec l'Inde et je sais que je suis fait pour travailler dans le massage. J'ai été formé là-dessus, mais voilà, mon maître, lui, donc, il m'a fait une astrologie védique. Donc l'astrologie védique, pour faire court,
c'est hyper passionnant. Vas-y, explique-nous.
C'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus précis que l'astrologie occidentale, parce que l'astrologie occidentale se base sur le soleil. Le soleil est beaucoup plus loin que la lune et n'agit pas comme la lune agit sur la Terre. Mmh. La lune agit, par exemple, par les marées. Donc forcément beaucoup plus près, donc beaucoup plus précis. Et lui, donc quand j'ai fait mon astrologie, il m'a dit clairement, donc ça peut être aussi une mauvaise chose, mais par rapport au chemin de vie que j'ai, il m'a dit ça peut être une bonne chose, c'est que tu es dans le tout ou rien. Donc en gros, il m'a dit tu seras soit une personne qui pourra tomber dans l'addiction de n'importe quelle chose, la drogue, l'alcool, etc., soit une personne qui pourra être ce qu'on appelle un sadhu, une personne très spirituelle. Et donc voilà, moi ça m'a conforté parce qu'effectivement j'ai toujours été attiré par la spiritualité, beaucoup par la philosophie, depuis que je suis tout gamin. Je disais du Freud, je vais avoir 13 ans. J'ai commencé vraiment à ouvrir mon esprit sur la philosophie, sur la compréhension, sur les mathématiques. Et petit à petit, voilà, je suis arrivé là où je suis. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment conforté dans le sens dans lequel je dois aller, donc c'est-à-dire travailler uniquement dans l'énergétique. Après, il m'a pas donné d'endroit. Il sait que je vais partir en Amazonie. Il m'a dit voilà, l'Amazonie, si toi tu le sens, vas-y.
Bah alors c'est quand même, enfin ça me semble être un projet, même là tu parlais des sadhus, c'est vrai que moi j'ai l'image du sadhu qui vit dans une grotte isolée et j'ai vu un super film qui a été réalisé par Gaël Métros, qui est un réalisateur, un jeune réalisateur assez génial et qui a suivi justement un sadhu pendant un peu plus de 6 mois. Mm-hmm. Voilà, donc il y a un super film, ça s'appelle Sadhu, vous tapez ça sur internet, je sais pas si c'est disponible.
J'irai voir, effectivement, oui.
Encore, mais là en tout cas c'est encore être proche des populations, de pouvoir accompagner les gens, voilà, c'est pas t'isoler non plus
dans une
spiritualité extrême.
Moi, je vais m'isoler parce que je serai en Amazonie. En Amazonie, dans tous les cas, voilà, il y a la ville qui est proche, mais pour aller dans les différents centres que je vais aller voir, faut compter à peu près une demi-heure, petite demi-heure. Alors, soit sur une route de terre ou sinon directement en pirogue. Mais dans tous les cas, je serai isolé pour le centre, mais je ne serai pas isolé du monde parce que mon but, c'est de faire venir et découvrir l'Ayurveda. Par l'alimentation, par le massage et par les plantes, et après de travailler conjointement avec un chaman. Donc dans tous les cas, je verrai du monde et c'est le but. Parce que au Pérou, il y a beaucoup de Japonais, beaucoup d'Australiens, beaucoup d'Américains, pas mal de Français aussi. Donc voilà, il y a du monde et beaucoup de personnes sont intéressées dans tous les cas par ce genre de spiritualité. Alors beaucoup par l'ayahuasca, mais comme l'ayahuasca c'est une chose qui est difficile à faire parce que il y a une préparation au minimum d'un mois.
Donc, la oui, préparation, ça ne devrait pas voilà. être un tourisme, en
non,
fait.
Non, non.
Il y a des touristes qui même, il y a des organismes qui doivent proposer un voyage à l'ayahuasca, et j'ai entendu parler de grandes dérives. Ouais.
Voilà, malheureusement, oui. Même moi, j'en ai vu donc à Cusco, qui est une ville là, qui est quand même assez loin de l'Amazonie, où j'entendais même des jeunes qui proposaient, généralement à des filles, qui ne sont pas fous, proposaient des cérémonies d'ayahuasca en leur expliquant que ça allait être la plus belle chose de leur vie, etc. Alors que non, pas du tout. L'ayahuasca, c'est une médecine qui est très sérieuse, où on fait le point sur sa vie, on essaye de comprendre des choses et
puis c'est la plante de la connaissance universelle.
Voilà, on peut pas
à la base, les chamans l'apprenaient pour savoir les remèdes, quels remèdes utiliser pour soigner leur tribu.
Quel type de plante prendre, mélanger pour quel type de soins.
C'est ultra fort. Voilà, et puis donc, il paraît qu'il faut jeûner avant. Enfin, il y a tout un.
Il y a un mois, voilà. Minimum un mois où on ne doit pas manger. Bon alors, de viande. Idéalement, ne pas manger de viande.
Être végétarien.
S'il y en a qui mangent de la viande, dans ce cas-là, ne pas manger de porc. Le porc, c'est la viande la pire pour l'organisme.
Ensuite, c'est vrai.
Oui, elle
c'est
est
vrai, ça
plein de toxines. Énormément,
faut
énormément
le dire à Nico, parce qu'il mange
de
trop
toxines.
De saucisson.
Non, ça, vraiment, le porc, c'est... Et pourtant, moi, avant, je mangeais énormément... J'adorais la charcuterie. Hein. Depuis que j'ai fait ça... Le porc, c'est vraiment la pire des viandes qui existe sur Terre. C'est, si on peut l'enlever, il faut l'enlever de son alimentation. Donc, ne pas manger de porc, éviter le sel, éviter tout ce qui est café, boisson énergisante... boire beaucoup d'eau, pas de sexe. Ça, c'est une des choses qui est assez difficile. Pas de sexe. Minimum un mois. Que ce soit,
ça va, alors.
Que ce soit masturbation, sexe à deux ou à plusieurs, si y en a qui aiment ça. Mais voilà, vraiment pas de sexe. Parce que le sexe, en fait, envahit le mental. Et on pense qu'à ça. Et donc, il faut éviter de penser
à
ça.
Mais si justement on fait l'amour, on n'y pense plus.
Si, justement. Inconsciemment, on y pense. Et en fait, l'ayahuasca va tout de suite repérer ça.
Non, mais c'est
ça.
Vrai, en plus, t'as raison.
Donc voilà, pas de sexe.
Moins on fait l'amour, moins on a envie.
C'est ça. Mais après, voilà, là, je parle juste avant la cérémonie.
Qu'est-ce que tu veux, Maïk ?
Généralement, après les cérémonies, l'ayahuasca un peu moins, mais il y a une autre plante qui s'appelle le San Pedro, qui est un cactus, qui lui va effectivement. Ouvrir un petit peu le côté sexuel de la personne. Donc là, effectivement, oui, après, ça peut permettre d'avoir une meilleure sexualité. Mais d'accord. Avant, pour faire son travail là, voilà, il faut éviter ces choses-là.
Bon, c'est tout un protocole à suivre, en tout cas, si on veut le faire dans la tradition.
Tout à fait. Mais généralement, les personnes qui ne le font pas dans la tradition regrettent d'avoir fait la cérémonie. Parce que la plante nettoie le corps. Avant de travailler l'âme.
Et puis je crois qu'elle tolère rien d'autre en fait. C'est
absolument
vraiment.
Rien
si on n'a pas suivi ce qu'il fallait suivre,
voilà. On le regrette.
Exactement. Alors moi j'ai une dernière question peut-être pour conclure cette belle rencontre et interview. Toi tu t'es toujours dit que finalement tu venais sur Terre pour servir quelque chose de plus grand.
Oui, toujours. Et même j'avais quoi, 4-5 ans, j'ai posé une question à ma mère qui l'a toujours laissé un peu perplexe et je lui ai dit c'est quoi ça ? Et elle m'a dit, mais de quoi tu parles ? Je fais ce que je touche là, ce qu'on voit pas, l'air, c'est quoi ? Voilà, c'est ce genre de questions que dès 6 ans je me posais. Donc voilà, j'ai toujours su que je n'étais pas fait pour faire un travail métro, boulot, dodo et être un petit mouton de panurge. Et je savais que j'étais fait pour quelque chose de grand, je ne sais pas, mais pour m'occuper des gens. Et avec le temps, voilà, j'ai compris que c'était à travers le massage, à travers l'alimentation, parce que je donne aussi des cours de cuisine ayurvédique, et à travers les plantes, que j'allais arriver à prendre soin des gens et à les libérer de certains maux de l'âme.
Bon, en tout cas, servir l'humanité, c'est quand même plutôt quelque chose de très grand.
Si je peux y contribuer.
Alors, quand est-ce que tu quittes la France ? Est-ce que peut-être on peut donner, je sais pas...
Alors là, pour le moment, là, je vais partir au mois d'avril parce que j'ai 4 lieux à visiter. Donc, je suis déjà en connexion avec les personnes, mais j'ai visité les lieux pour voir déjà au niveau énergétique lequel me plaît le plus. Ensuite, après, il va falloir négocier, bien évidemment, le tarif. Mais après, je pense qu'au mois de septembre-octobre, je commencerai à partir au moins 3-4 mois pour... commencer déjà à faire connaître le centre, à développer un petit peu tout ça, à parler avec des chamans. Et je pense que oui, à partir de septembre-octobre, on pourra commencer à ouvrir le centre.
Mais en tout cas, toi, ton objectif de vie, c'est de suivre cette mission-là.
Exactement,
et peut-être
m'occuper des gens.
Quitte à mettre de côté, toi, tes réalisations, entre guillemets, personnelles, même si ça en fait partie.
Ma seule réalisation personnelle actuellement, c'est le centre.
D'accord.
Ma vie est faite pour ça.
La vie amoureuse, les enfants, tout ça, ça passe dans un deuxième plan.
Ça passe dans un deuxième plan. Ça, il n'y a pas de. Si je dois avoir des enfants, j'aurai des enfants. Si je ne dois pas avoir d'enfants, je n'aurai pas d'enfants. c'est pas un poids pour moi. Le principal, c'est, voilà, pour le moment, après peut-être que ça changera d'ici 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais pour le moment, bon, mon but est de m'occuper des gens. Après le reste, je verrai après. Mais vraiment, voilà, je m'occupe des gens, je sais que je suis fait pour ça. Je verrai comment les choses vont évoluer, mais voilà, mon premier travail, c'est m'occuper des gens.
Bon, bah, c'était en effet merveilleux, parfait. On ne savait pas trop comment on allait terminer ce salon. Mais comme quoi, quand on demande à l'univers, on est toujours servi,
bien
servi, et même encore mieux servi que ce qu'on imaginait.
La voie du bien-être. Magnifique.
Non, mais ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Alexandre, alors peut-être, je ne sais pas si les auditeurs ont envie de réagir à cette émission, t'écrire. Est-ce qu'ils peuvent le faire sur une adresse mail?
Bien sûr. Alors, mon adresse mail, donc, c'est donc, tout en minuscule, alex.portep@gmail.com. Voilà, ils peuvent m'écrire, il n'y a aucun souci, je regarde ma boîte mail tous les jours. Si je ne réponds pas dans la semaine, je réponds généralement le week-end. Donc, mais voilà, s'ils veulent des renseignements sur l'ayahuasca, sur l'ayurveda, sur le chamanisme, sur les plantes. Je consulte. Alors, j'ai pas de cabinet en France, mais je me déplace. C'est-à-dire que moi, je suis en région parisienne. Et voilà, si les personnes veulent se faire masser, soit ils m'appellent, soit ils m'envoient un mail. Alors soit ils peuvent se déplacer chez moi, parce que bon, chez moi j'ai quand même une pièce où je peux faire comment dire, comme une salle de massage
qui est
dédiée à ça. Et après effectivement, si les gens ne souhaitent pas se déplacer, je peux me déplacer chez eux.
Ok. Bon bah super, en tout cas n'hésitez pas à lui écrire, c'était une merveilleuse rencontre, hein, pour bien terminer.
Moi je deviens auditeur, je suis, non c'est magnifique, hein. Quelle belle mission, belle voix, belle mission de vie.
Merci, j'ai pas merci.
Je te soutiens Alexandre,
merci
te soutiens dans ces projets-là. Il y a différentes manières.
Non, puis la jeunesse incarnée là-dedans. Enfin, moi, c'est pareil. Les gens viennent me voir sur le salon et c'est assez drôle.
Une très belle âme.
Ils me disent, je vous écoute depuis longtemps, Nathalie, mais vous êtes jeune en fait. Et ils sont assez étonnés de se rendre compte
que. C'est comme moi, les gens ne pensent pas. Alors, voilà, si je te demande mon âge.
Petit jeu. Allez, je dirais 24 ans.
Là, c'est une colle. Oui, on est dans la.
24 ans, mais quoi, les 600 vies derrière toi. Je crois que.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
Voilà,
c'est l'âge de l'âme, l'âge physiologique ou l'âge administratif. Qu'est-ce
l'âge
que tu veux?
Physiologique.
Oui. Ouais.
Attends, on va être sur le cul.
Voilà, là,
mais vas-y, donne une réponse.
Je me lance. J'étais dans 28, 30 ou 32, je sais pas.
Voilà, non, bon, j'ai 30 ans. Voilà. Mais effectivement, beaucoup de personnes pensent que j'ai 24 ou 26.
Ah, donc tu es plus âgé que ce que les gens pensent.
Plus âgé que ce que les gens pensent.
Mais ça, c'est l'ayurveda, en fait.
Ça maintient l'ayurveda. Jeune. Bien évidemment. La bonne nourriture, les bons compléments alimentaires si besoin, l'hygiène de vie.
Et de tous les plans, hein. C'est ça, ce qu'on disait l'autre jour.
En ayurveda, l'hygiène de vie commence dès le réveil. La première chose à faire, c'est se gratter la langue. Parce que sur la langue, tous les matins, ce qu'on appelle une patine, ce sont des toxines pures. Et ce que font les gens dès qu'ils se lèvent, généralement, c'est de boire.
Mais moi, je bois de l'eau chaude. Mais c'est ayurvédique en plus.
C'est bien de boire de l'eau chaude.
Mais avant, il faut gratter la langue.
Parce que si on boit de l'eau chaude sans gratter la langue...
Mais tu la grattes avec quoi?
Un gratte-langue. Alors justement, nous, on vend des gratte-langues. un petit peu de pub par-dessus.
Faire le ménage, quoi.
Mais non, on vend
peut se gratter avec autre chose.
Alors, il faut se gratter avec...
Il y a des déchets partout.
C'est
hein.
une... Normalement, c'est, il faut
mais
une
oui,
fer.
L'urine et tout.
Du fer. L'idéal, c'est du cuivre. Parce que le cuivre est antiseptique.
Okay.
Et donc, plus c'est fin, mieux ça va gratter la langue.
Ça coûte combien, un gratte-langue?
5 euros généralement.
5 euros. Okay.
5 euros pour un grattant en cuivre. Si c'est du fer, faut compter 3 euros.
Donc on se réveille, on se gratte la langue.
Tout de suite se gratter la langue, se laver le visage parce que les toxines s'accumulent sur le visage et après boire un verre d'eau chaude.
Ok. Voilà. Bon bah j'ai au moins un truc que je fais sur les 3. Bon bah Alexandre, je sais pas, avant ton départ, peut-être que tu auras l'occasion de revenir sur Radio Médecine Douce.
Mais je serais même
nous donner
ravi
d'autres
de revenir,
conseils.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Bah merci à vous deux.
Mais moi j'étais ravi, voilà, j'étais enchanté et ravi.
Et
voilà.
Puis chers auditeurs, on vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été fidèles tout au long de ces 5 jours. Merci d'être venu à notre rencontre. Merci pour tous ces câlins, tous ces mots d'amour. Voilà, c'était du bonheur. Moi je vous retrouve non pas demain, mais à partir de mercredi, voilà, pour Radio Messieurs qui reprend un peu sa vie normale.
On
vous embrasse très fort. Voilà, Emmanuel, on le retrouve pour son émission Équilibre de vie.
Voilà, avec grand plaisir. Enfin, en tout cas, merci Alexandre. Moi, j'ai passé un merveilleux moment. Je n'avais rien à dire, j'avais juste à entendre, écouter cette fabuleuse voix, cette fabuleuse mission et tout ce que tu peux faire et tout ce qu'il y a aussi qui existe autre que tout ce qui est occidental, l'Orient.
Bah, merci à vous. Merci.
En tout cas, une merveilleuse soirée, chers auditeurs. On vous retrouve très bientôt.
Au revoir.